Chapitre 67. Or, voici la place qu'occupait chacun. Pompée commandait l'aile gauche. Il avait avec lui les deux légions que César lui avait renvoyées des Gaules. Antoine était en face et, par conséquent, commandait l'aile droite des Romains. Scipion, beau-père de Pompée, commandait le centre avec les légions de Syrie et avait devant lui Calvinus Lucius. Enfin, Afranius commandait l'aile droite de Pompée. Il menait sous ses ordres les légions de Cilicie et les cohortes amenées d'Espagne que Pompée regardait comme ses meilleures troupes. Il avait devant lui Sylla. Cette aile droite des Pompéiens avait son flanc couvert d'un ruisseau de difficile abord. C'est pourquoi Pompée avait amassé à son aile gauche ses frondeurs, ses archers et toute sa cavalerie. Puis peut-être n'était-il pas fâché d'avoir toute sa force active sur le point où il se trouvait lui-même. César se plaça en face de Pompée, prenant, selon son habitude, sa place dans la 10e légion. En voyant s'amasser devant lui toute cette multitude de frondeurs, d'hommes de trait et de cavalerie, César comprit que le plan de son ennemi était de commencer l'attaque de son côté et de chercher à l'envelopper. Alors il fit venir du corps de réserve 6 cohortes qu'il plaça derrière la 10e légion, avec ordre de ne point bouger, et de se cacher autant que possible à l'ennemi jusqu'au moment où sa cavalerie chargerait. En ce moment, ces 6 cohortes s'élanceraient au premier rang et, au lieu de lancer de loin les javelots, comme font d'ordinaire les plus braves, pressés qu'ils sont d'en arriver à un combat corps à corps, chaque homme porterait le fer de sa lance à la hauteur du visage de l'ennemi. Il leur ferait signe avec un étendard lorsqu'il serait temps pour eux d'exécuter cette manœuvre. César était convaincu que toute cette élégante jeunesse, tous ces danseurs beaux et fleuris, ne pourraient supporter la vue du fer. Ces astères étaient au nombre de 3 000. Pompée, à cheval, étudiait, du haut d'une colline, l'ordonnance des 2 armées. Voyant alors que l'armée de César attendait tranquillement le signal et que, au contraire, la plus grande partie de ses hommes, à lui, au lieu de se tenir immobile à leur rang, s'agitait dans le plus grand désordre, et cela faute d'expérience, il craignit que, dès le commencement de l'action, ses troupes ne rompissent leur ordonnance. Il envoya donc des courriers à cheval chargés d'ordonner au premier rang de rester fermes à leur poste, de se serrer les uns contre les autres et d'attendre ainsi l'ennemi. Ce conseil, dit César, avait été donné à Pompée par Triarius, et je ne l'approuve aucunement. Car il y a dans l'homme une certaine ardeur et une impétuosité naturelle qui se rallument par le mouvement et qu'il faut tâcher d'entretenir plutôt que de laisser éteindre. Il résolut donc, quoique le plus faible, de profiter de cet avantage que lui laissait Pompée et de commencer l'attaque. Alors, après avoir donné le mot de ralliement, qui était « Vénus la victorieuse », tandis que Pompée donnait le sien, qui était « Hercule l'invincible », il jeta un dernier regard sur toute sa ligne. En ce moment, il vit un soldat volontaire dans l'armée, mais qui, l'année précédente, avait été capitaine dans la 10e légion, qui s'écriait « Suivez-moi, compagnon, car le moment est venu de tenir à César tout ce que nous lui avons promis. » « Eh bien, Crassinus, lui demanda César. César, comme 2000 ans plus tard Napoléon, connaissait par leur nom tous les soldats de son armée. « Eh bien, Crassinus, lui demanda César, que penses-tu de la journée d'aujourd'hui ?»« Rien que de bon et de glorieux pour toi, impérator, répondit Crassinus. En tout cas, tu ne me reverras que mort ou victorieux. » Puis, se retournant vers ses compagnons, « Allons, dit-il, à l'ennemi, enfant, à l'ennemi !» Et il s'élança le premier avec 120 hommes. Alors, et pendant que ces 120 hommes partaient aussi les premiers pour attaquer les 52 000 hommes de Pompée, il se fit un instant, au-dessus des 2 armées, ce funèbre silence qui précède les batailles décisives et dans lequel il semble qu'on entend d'autre chose que le battement des ailes de la mort. Au milieu de ce silence, Crastinus et ses hommes, arrivés à 20 pas des Pompéiens, lancèrent leurs javelots. Ce fut comme un signal. Des 2 côtés, les trompettes et les buccins retentirent. Toute la ligne d'infanterie de César s'élança aussitôt pour soutenir les 120 braves qui lui montraient le chemin, lançant des javelots en courant et en poussant de grands cris. Puis les javelots lancés, les Césariens tirèrent leurs épées et fondirent sur les Pompéiens qui les reçurent fermes et sans bouger. Pompée, comme s'il n'eût attendu que cette certitude, que son armée soutiendrait vaillamment le premier choc, pour reprendre toute assurance, Pompée alors donna l'ordre à sa cavalerie de charger l'aile droite de César et de l'envelopper. César vit venir à lui cette masse de chevaux dont le galop faisait trembler la terre et, en la voyant venir, ne dit que ces trois mots « Ami, au visage !» Chaque soldat entendit et fit un signe de tête indiquant qu'il avait compris. Comme l'avait prévu César, cette trombe vivante d'hommes et de chevaux balaya devant elle ses 1000 hommes de cavalerie. Dans les intervalles des cavaliers de Pompée étaient les hommes de trait. La cavalerie de César rejetée en arrière, les premiers rangs de sa 10e légion ébranlés, les 8000 cavaliers de Pompée lancèrent leurs escadrons pour envelopper César. C'était le moment que celui-ci attendait. Il fit lever l'étendard qui devait donner le signal à ses 3000 hommes de réserve. Ceux-ci, qui avaient conservé leurs javelots, avancèrent, se servant de cette arme comme les soldats modernes font de la baïonnette, les portant aux yeux de l'ennemi et répétant le cri de César « Au visage, compagnon, au visage !» Et en même temps, sans s'occuper des chevaux, sans chercher à blesser les hommes ailleurs, ils dardaient le fer de leurs lances dans la figure des jeunes chevaliers. Ceux-ci tinrent un instant, plutôt par étonnement que par courage. Puis, préférant être déshonorés à être défigurés, ils lâchèrent leurs armes, firent tourner bride à leurs chevaux et s'enfuirent, tenant leur visage entre les deux mains. Ils coururent ainsi, sans se retourner, jusqu'aux montagnes, laissant à la boucherie leurs hommes de trait, qui furent tous exterminés. Alors, ne se donnant pas même la peine de poursuivre ces fuyards, César lança en avant sa 10e légion, avec ordre d'attaquer de front l'ennemi, tandis que lui, avec sa cavalerie et ses 3000 astères, l'attaquerait en flanc. Le mouvement se fit avec une régularité merveilleuse. Il est vrai que César, habitué à payer de sa personne, le dirigeait. Cette infanterie pompéienne, dont l'ordre était de tourner l'ennemi aussitôt que les chevaliers auraient mis en désordre l'aile droite de César, se voyait elle-même tournée. Elle tint un instant, mais bientôt se débanda et suivit l'exemple de la cavalerie. À l'instant même, tous ses alliés qui étaient venus au secours de Pompée, tous ses chevaliers, tous ses Galates, tous ses Cappadociens, tous ses Macédoniens, tous ses Candiotes, tous ses archers du pont, de la Syrie, de la Phénicie, toutes ses recrues de la Thessalie, de la Béotie, de l'Achaïe, de l'Épire, se mirent à crier d'une seule voix, mais en 10 langues différentes, « Nous sommes vaincus !» Et, tournant le dos, ils s'enfuirent. Il est vrai que Pompée leur avait donné l'exemple. « Comment, Pompée, Pompée le Grand ?»« Eh, mon Dieu, oui !» Lisez Plutarque. Je ne veux pas même m'en rapporter à César. Notez que Pompée n'avait pas même attendu si longtemps que nous le disons. Voyant ses chevaliers en déroute, il avait mis son cheval au galop et était rentré au camp. Lisez toujours Plutarque. Or, cela ayant pris la fuite, Pompée vit la poussière qui s'élevait sous les pieds de leurs chevaux et comprit ce qui arrivait à ses chevaliers. Il serait difficile de dire quelle pensée lui traversa l'esprit. Mais, pareil à un insensé, semblable à un homme pris de vertige, oubliant tout à coup qu'il était le grand Pompée, sans dire un seul mot, sans donner un dernier ordre, il se retira lentement, en tout point semblable à Ajax, et pouvant aussi bien que lui être désigné par ses vers d'Homère, Jupiter, le père des dieux, assis sur un siège élevé, jetant dans Ajax la crainte, et celui-ci s'arrêta frappé d'étonnement. Et rejetant en arrière son bouclier, couvert de 7 peaux de bœuf, il s'enfuit hors de la foule en regardant ça et là. Tel Pompée. En arrivant au camp, il cria tout haut aux officiers de service afin que les soldats le pussent entendre. « Prenez garde à la défense des portes. Je vais faire le tour du retranchement pour donner le même ordre partout. » Puis il se retira dans sa tente, désespérant du succès de la bataille, mais attendant avec résignation l'événement.